Ok, donc bah, bonjour à tout le monde et merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour la réunion de ce matin. Je sais bien que les calendriers de tout à chacun sont toujours très contraints dans des périodes qui plus est où il y a des cours, des étudiants et toutes nos activités habituelles. Donc vous rendre disponible pour venir discuter avec nous. Je sais à quel point c'est pas facile, et si vous êtes là, c'est que comme nous, vous pensez que c'est important. Je vous en remercie. On est donc ici dans l'amphi de Molombre, dans la composante de l'UFR Droit, donc on remercie pour son accueil. Et on a aussi en ligne des collègues de sites délocalisés, Alençon, Lisieux, je crois, je ne sais plus. En tout cas, je les invite, s'ils le veulent, dans le chat, à pouvoir se présenter, dire bonjour, dire qui, d'où est-ce qu'ils sont. Comme ça, on verra un petit peu. Voilà, je vais vous faire une petite à dire introduction, présentation de la journée, mais je vais essayer d'être assez court parce que derrière moi, on a des contenus et des intervenants beaucoup plus intéressants qui vont vraiment vous faire rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous les présenter et je les remercie aussi de s'être rendu disponible. Alors, juste un petit focus sur la question qui nous réunit ce matin, c'est la question de l'approche par compétences dans la construction de nos programmes de formation. La question des compétences est vraiment aujourd'hui une notion qui est au cœur de ce qu'on appelle les transformations pédagogiques. Bon, je crois que quand on est universitaire, la question de se transformer est plutôt un mode de vie normale qu'une révolution. Donc, on est toujours dans cette transformation, dans l'idée de penser les choses autrement. C'est très bien. Et du coup, on va peut-être pouvoir utiliser nos capacités de chercheurs à vouloir transformer l'existant au service de notre métier de pédagogue et d'enseignant, en pensant la transformation de nos programmes de formation. Alors évidemment, ce n'est pas un scoop, parce que je sais très bien qu'on le fait depuis des années. Mais là, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est actuellement, il y a quand même tout un faisceau de contraintes qui ne doivent pas être vécues comme des contraintes, mais aussi d'opportunités. En tout cas, tout un tas d'injonctions qui peuvent nous être faites et d'enjeux qui sont présents, auxquels on doit répondre présent. Et cette question des compétences en est un. Donc, il y a des attentes réglementaires. Alors, je disais qu'on peut presque vivre comme des injonctions, mais enfin, après tout, si les lois sont faites, elles ne le sont pas par autre chose que la représentation de tout à chacun, et elles servent le bien commun. Et dans les lois qui ramènent aujourd'hui de manière très très présente cette question des compétences, il y a effectivement la loi ORE pour l'orientation et la réussite étudiante, et puis la loi pour la liberté de choix de son avenir professionnel qui date de septembre 2018. Là, je ne m'étends pas parce que d'autres vont en parler beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, il y a un faisceau d'objets réglementaires, on va dire, qui nous invite très expressément à nous poser ces questions des compétences. Plus globalement, et si la loi l'écrit, c'est pas anodin, c'est que c'est la société qui change et qui requiert de plus en plus qu'on réfléchisse à la question des compétences de tous les actifs dans la société, voire même de ceux qui pourraient être dans des moments entre deux formes d'activité. Mais en tout cas, la question des compétences est quelque chose qu'on doit tous essayer d'assumer pour maximiser ses chances de trouver des places qui nous conviennent dans la société dans laquelle on est. Et évidemment, le devenir de nos étudiants est quelque chose qui doit aussi être évalué et pensé en termes de développement de compétences. Ce qu'il faut tout de suite essayer de mettre de côté, ce serait une opposition complètement artificielle et stérile entre la question des compétences et des connaissances. Quand on dit qu'on va essayer d'organiser un programme de formation sur des référentiels de compétences, on n'est pas en train de dire que ce qu'on faisait avant, qui n'était peut-être que de la connaissance, était une mauvaise façon de faire. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Il y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi, et dans les écrits, par exemple, des gens comme Jacques Tardif, qui vont définir cette notion de compétence. Mais en gros, s'il fallait qu'on résume de manière très très schématique et peut-être trop résumée, on va dire qu'une compétence, c'est une capacité qu'on a en contexte de développer un ensemble agrégé de connaissances. Donc il y a ce côté agrégatif qui agrège des connaissances et le côté mise en pratique en contexte. Mais ce n'est pas quelque chose d'orthogonal et encore moins contraire. Donc n'allez pas penser qu'on vous dit de faire complètement autre chose quand on vous dit de penser compétences dans un programme de formation et que tout ce que vous aviez fait avant était à jeter. C'est pas du tout ça. Et quand on parle de transformation pédagogique, c'est pas une révolution pédagogique, c'est une transformation. On va penser les choses dans une évolution. Au cœur des besoins de la stratégie, on va faire un petit coup de focus resserré au cœur de la stratégie de notre établissement. Alors, un exemple, en mars dernier, on a voté dans le conseil d'administration de l'établissement un document qui s'appelle le plan stratégique de la transformation pédagogique, qui met cette question de l'approche par compétences dans les programmes de formation comme un enjeu vraiment de tout premier plan. Toute la question de la réussite de nos étudiants est aussi complètement en filigrane, en train de porter cette question des compétences, de l'objectivation des compétences, des bilans de compétences, du développement de compétences, de l'évaluation des compétences. Évidemment, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de formation tout au long de la vie, comme un continuum entre les formations initiales et continues. Là aussi, on a quelque chose qui investit beaucoup la question des compétences, parce que tous les étudiants qu'on va avoir à gérer sont de moins en moins dans un profil type classique qui est celui de l'étudiant post-bac et qui est là dans un moment de sa vie entre l'enseignement secondaire et sa première insertion professionnelle. On va avoir des gens qui vont venir nous voir parce qu'ils ont besoin de sécuriser leur trajectoire professionnelle et personnelle, qui ont besoin d'être plus armés face aux transitions de notre société. Les transitions de la société aujourd'hui, elles sont multiples, vous le connaissez, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est numérique, sociologique, écologique. Tout ça fait que, encore moins peut-être que dans la génération de nos parents, on peut faire carrière sur un socle de formation pendant une quarantaine d'années. Posez-vous la question 30 secondes de ce qu'était le numérique il y a 40 ans. Vous voyez bien que dans une carrière, des transitions, il faut être armé pour les traverser. Et la bonne façon d'être résilient par rapport aux transformations, c'est de penser qu'on va avoir recours plusieurs fois dans sa vie à des formations, dès lors que ces formations sont compatibles avec son activité, qu'elles sont bien ciblées par rapport à ce qu'on en attend. Et vous voyez que dans cette question de comment est-ce qu'on est garanti qu'elles sont bien ciblées, qu'elles sont lisibles, qu'elles répondent exactement à ce qu'on en attend, la question de la formalisation des compétences est super importante. Dans les choses qu'on a à gérer aussi actuellement, et pourquoi on fait cette réunion aujourd'hui, on a un calendrier de contractualisation qui s'ouvre devant nous pour les réflexions qu'on doit avoir sur la mise en œuvre de la prochaine offre de formation. Donc c'est le bon moment tout de suite pour se poser ces questions-là. Et pour ce calendrier-là, Alban va vous en reparler immédiatement après moi. Quand on parle de calendrier, je voudrais juste aussi vous dire que la question des compétences, ce n'est pas un scoop. Je ne suis pas en train de déballer un truc tout neuf sorti d'un carton. Les référentiels de compétences et le fait que les diplômes nationaux doivent être établis sur des référentiels de compétences, c'est déjà dans le cadre national des formations qui était un texte de 2014 et plus profondément c'était même porté par la loi de 2013. Et si on regarde ça dans l'idée que tout ça vient aussi de la certification professionnelle, le RNCP, le registre national de la certification professionnelle, ça date de 2002. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de, de, de chambouler les choses avec quelque chose de tout neuf. Les choses se mettent en place, mais si ça demande du temps, c'est que derrière, il y a des modifications culturelles qui doivent être conscientisées et abordées. Donc c'est ça qu'on veut faire ensemble. Et dans les changements culturels, il y a certainement quelque chose qui va être de l'ordre de la dynamique collective dans la construction de l'offre de formation, dans une approche de décloisonnement, peut-être que dans les modèles qu'on a vécu quand on était nous-mêmes étudiants, construire des programmes de formation, c'était rassembler une équipe, tiens, toi tu sais faire quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, et puis voilà, chacun fait son cours, et puis les étudiants bénéficient de l'approche de chacun. Je ne dis pas qu'il faut mettre ce modèle-là à la poubelle, mais en tout cas, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est qu'il faut faire du lien entre ce que chacun va pouvoir donner comme compétence à ses étudiants, et que peut-être qu'une compétence, elle peut être transversale dans plusieurs enseignements, plusieurs UE, et plusieurs modalités de mettre en place et de piloter la formation. Donc cette approche collective dont on perçoit souvent au niveau de la recherche sa valeur ajoutée, il faut aussi l'investir au niveau de son activité de pédagogie. Et c'est en cela que je parle aussi de décloisonnement, décloisonnement des principes, des méthodes et de nos pratiques. Alors, vous voyez que du coup, ça m'amène à la fin de mon transparent sur comment est-ce qu'on va le faire. Et l'objectif de la matinée, c'était aussi d'aborder les questions de mise en œuvre. On va le faire avec une stratégie d'établissement qui est importante, qui nous réunit ici aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est des enjeux qu'on a écrits dans des textes d'orientation stratégique, dans la façon de penser le projet de l'établissement, et dans le projet d'établissement 2017-2021, cette question-là est aussi présente. Et on compte beaucoup dans cette stratégie d'établissement sur vous-même, qui êtes responsable de diplôme, comme étant justement notre relais le plus efficace qu'on peut avoir dans les équipes pédagogiques pour justement faire pousser ces idées et faire naître la dynamique collective qui est celle qui produit le décloisonnement. Donc, une stratégie d'établissement, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas un faucon yaka, ce n'est pas que des choses qu'on écrit en disant « bon, ben voilà, maintenant que les acteurs s'en emparent, et puis tant mieux ». La stratégie d'établissement, elle s'accompagne d'actions. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est parler avec vous de comment est-ce qu'on peut, de manière très concrète, agir dans l'animation des équipes pédagogiques, dans l'idée de la prochaine offre de formation qu'on a à construire relativement aux orientations qui sont celles de la loi, de la société et de ce pourquoi on est là et des étudiants qu'on a à former. Alors, on va aller jusqu'à une proposition qu'on va vous faire en fin de matinée avec Aline Skwarnek sur un accompagnement justement des responsables de diplôme. Notoirement sur la question des ressources humaines et de ce que c'est qu'un référentiel de compétences. Et puis je voudrais aussi vous dire qu'en matière d'accompagnement, vous avez une chance au sein de l'Université de Caen, c'est d'avoir un service d'appui à la pédagogie qui réunit pour le coup des compétences qui vous seront très utiles, et avec une disponibilité qui est toujours très, très louable. C'est évidemment le CEMU qui est là pour vous accompagner. Et si vous avez besoin de discuter d'approches, compétences, de pouvoir avoir un relais au sein de vos équipes pédagogiques, vous avez les personnels du CEMU qui sont dans leur mission de service commun pour vous accompagner, avec souvent des ingénieurs de pédagogie, même maintenant, qui sont affectés principalement aux composantes. Donc, vraiment, je vous invite à recourir à cet accompagnement de qualité. Thierry, si tu peux passer au dernier. Voilà, donc là, je donne la parole à Alban. Je voudrais juste vous présenter vite fait le programme et les intervenants. Donc Alban, VP CFVU, qui va nous parler du calendrier de l'auto-évaluation et de la conception de la prochaine offre de formation. Ensuite, on aura Philippe Lal au bout de la table, qui va nous parler des enjeux de l'approche par compétences dans la transformation des cursus. Philippe est conseiller stratégique auprès de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère. Conseiller stratégique sur les questions de la pédagogie. Donc vraiment, il va être au cœur de sa problématique et on va pouvoir en profiter. Jean-Louis Gouju, qui est conseiller scientifique aussi à la DGCIP, qui va nous parler de la question notamment de la mise en place des blocs de compétences et de comment est-ce que les blocs doivent être pensés, notoirement sans déjà trahir son contenu, dans l'idée que les compétences et les blocs de compétences sont des attendus de certification, mais que ce n'est pas quelque chose qu'il faut penser en remplacement de l'organisation de la formation. Il faut jouer sur les deux niveaux, la question des modalités de formation et la question des attendus. Et la question des blocs est une façon d'organiser ce lien. Ensuite, on aura William Gamard, qui est adjoint de la chef du département du lien formation-emploi à la DGCIP, si je ne me trompe pas. Voilà, donc qui va nous parler des enjeux de la loi de 2018 sur le choix de son avenir professionnel. Voilà, et ensuite on aura Aline Skwarnek, qui est professeure de sciences de gestion ici dans notre IAE, qui va justement nous parler de comment est-ce qu'on peut vous faire une proposition d'accompagnement sur la question des DRH dans les questions de compétences. Voilà, l'essentiel de la matinée va aussi résider dans nos interactions et on a voulu garder une partie de la fin de la matinée pour des échanges, des questions et qui donnera lieu aussi à un temps de convivialité pour prolonger un peu tout ça. Je vous remercie tous encore une fois d'être présents et je suis sûr que la matinée qu'on va vivre ensemble sera de nature à nous éclairer et puis à nous rassurer dans le fait qu'il y a des transformations qui sont nécessaires, mais qui sont peut-être intéressantes à mener parce qu'elles sont porteurs de sens. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on va tous y trouver le sens qu'on attend de ces transformations-là. Et c'est bien l'attendu aussi qu'on a d'une stratégie d'établissement que de donner sens à nos actions et à nos transformations. Voilà. Je passe la parole à Alban.